Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah.
Salut Damien.
Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un vieux routier des ondes qui a sillonné l'intégralité de la planète média. Sa carrière, il l'a commencé au milieu des années 60 alors que le général de Gaulle était président de la République et aujourd'hui, en 2024, il est toujours engoncé dans ce satané costume de Joker. Bonjour Jean-Pierre Foucault.
Bonjour, comment allez-vous tous les deux?
Ça va bien,
super.
Général de Gaulle n'est plus là.
Bah non, mais vous êtes encore là par contre.
Oui,
il faut se réveiller Jean-Pierre. Bah, par contre, vous êtes encore Joker. Dès que vous passez sur une émission, ça y est, vous êtes
c'est
Joker.
C'est la première fois que je suis Joker. Je n'avais pas été Joker avant.
Vous n'avez jamais
donc
été Joker.
Donc on m'a demandé de remplacer Thomas Hill à Europe 1 pendant 5 jours.
Ouais.
Ce que je fais, bien entendu. Et ensuite, je repars en vacances.
Donc c'est dans Culture Média, tous les jours de 9h30 à 11h. Vous assurez donc l'intérim, le temps des vacances de Thomas Hill. Permettez-moi cette question teintée d'ironie, mais comment décririez-vous vos premiers pas sur Europe 1?
D'abord, ce ne sont pas mes premiers pas. Parce que la première fois que j'étais sur Europe 1, c'était en janvier 1967.
Ah oui.
Pour animer une émission. Donc ce sont mes seconds pas.
Ouais.
Écoutez, c'est pas trop mal. Je me suis pas cassé la figure. Mais il faut dire que l'équipe de Culture Média est absolument géniale. Anissa qui est à mes côtés, remarquable. Donc ça se passe bien. Donc, Thomas m'a laissé des clés et un endroit très très propre.
C'est propre.
Puis vous avez été accueilli lundi en grande pompe. Hein.
Oui.
Dans la matinale d'abord de Dimitri Pavlenko, il y avait tout le monde de réuni, Pascal Praud, Sonia Mabrouk, enfin toute la grille, et yes. Cyril Hanouna aussi, qui était votre premier invité. Comment vous avez reçu cet accueil?
Mais plutôt pas mal, parce que c'est plutôt sympathique quand vous arrivez quelque part. D'abord, c'est eux qui étaient demandeurs, eux qui m'ont demandé pourquoi. Parce qu'un jour, Thomas, au mois de décembre, avant les Miss France, que je présente toujours.
C'est vrai.
Avant que vous ne me posiez la question.
On vous la posera à la fin de l'émission, bien évidemment.
Thomas me dit, est-ce que ça vous manque, la radio? Je dis, oui, ça me manque un petit peu. Et quelques semaines après, Donna Vidal-Ravel, directeur général, m'appelle et me dit, ben, puisque ça te manque, est-ce que ça te dirait de simplement remplacer Thomas pendant 5 jours? J'ai dit oui, parce que c'est rigolo, parce que c'est mon métier, parce que c'est du direct, et que j'aime le direct, j'aime la vie, et j'aime mon métier. Donc, 5 jours pour qu'il puisse aller dormir tranquille en Espagne au soleil, ça me fait plaisir.
Mais ça prouve, Jean-Pierre Foucault, que vous n'avez pas un égo surdimensionné, parce que quand on a la carrière que vous avez, ça doit être dur de se mettre dans les chaussons de Joker.
Absolument pas. Absolument pas. Je fais une émission de radio, je fais 5 numéros d'une émission de radio. Pour moi, c'est une distraction, une récompense.
Et vous l'avez rappelé, la première fois que vous avez animé une émission sur Europe 1, c'est en 1967. Est-ce que vous avez retrouvé l'ambiance de l'époque où le parfum est vraiment différent et n'a absolument rien à voir avec le siècle passé?
Ça n'a rien à voir.
Ouais, complètement.
Ça n'a rien à voir.
Ouais.
C'était en 1967, c'était rue François 1er, c'était Allo Alma 9000, boîte postale 150 Paris 8e. Non,
c'est une autre langue.
D'abord, c'est un autre siècle, c'est une autre langue, et puis les vedettes de l'époque n'étaient pas, bien entendu, les vedettes d'aujourd'hui. Moi, j'étais petit débutant. J'ai appris mon métier, en quelque sorte, à Europe 1.
Et vous, en 2024, vous êtes toujours une vedette, et on va en parler dans l'interview du Buzz TV, de votre arrivée dans Culture Média, en tant que Joker. Il faut toujours le préciser, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Bon, on ne va rien vous apprendre, puisque vous proposez aussi un journal des médias dans Culture Média, mais quand même, on vous le dit, Nikos Aliagas décroche un rôle important dans le cadre des Jeux Olympiques.
La cérémonie de l'allumage de la flamme olympique s'est tenue à Olympie, en Grèce. Eh bien, le présentateur d'origine grecque, Nikos Aliagas, était le maître de cérémonie. Alors, son rôle était très protocolaire. Hein. Il a, par exemple, annoncé l'allumage de la flamme, présenté le discours de Tony Estanguet, qui est le président des JO, et également présenté les hymnes nationaux. Le tout, s'il vous plaît, en grec, en français et en anglais, puisque Nikos Aliagas est polyglotte. Et vous vous en doutez, c'est une mission qu'il a prise très à cœur. J'ai accepté de le faire, dit-il, pour être utile et pour honorer à la fois mes racines, les racines de mes parents et le pays où je suis né. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré à nos confrères de l'équipe.
Jean-Pierre, est-ce que vous vous réjouissez à l'idée que la France accueille les Jeux Olympiques?
Bien entendu.
Oui.
C'est un événement mondial qui a lieu tous les 4 ans. Et je pense que la France a loupé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, l'opportunité de les faire, ces Jeux. Cette année, nous serons là. Et il ne reste plus qu'à faire confiance en nos sportifs.
oui.
paralympiques et autres. Et moi, je suis très confiant. Je suis très heureux d'accueillir également la Flamme à Marseille avec TF1. Oui. Le 8 juin, la Flamme arrivera avec le Bélème dans le Vieux-Port et toute une équipe de TF1 sera là.
Vous allez la porter, la Flamme ?
Non, je vais l'accueillir.
Ah, vous allez l'accueillir.
Bonjour, bienvenue.
Vous allez lui faire la bise, c'est ça ? Attention de ne pas vous cramer les cheveux quand même, c'est une Flamme. Allez, on poursuit avec Gilles Verdez qui dénonce la Légion d'honneur de Thierry Ardisson.
Oui, parce que la semaine dernière, l'animateur de télévision a été décoré par Emmanuel Macron à l'Élysée, ce qui n'a pas été du goût de tout le monde. Une gifle pour l'écrivaine Christine Angot, mais aussi pour les actrices Judith Godrèche et Sarah Forestier qui ont soutenu cette tribune, tout en mémoire les interviews polémiques conduites par Thierry Ardisson dans les années 90 et 2000. Alors Gilles Verdez est le dernier de la liste à apporter son soutien. Cette remise de médaille, dit-il, est nulle et non avenue. C'était en TPMP.
Il me semble, Jean-Pierre, que vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur.
Mais écoutez, vous avez de bonnes informations.
Mais écoutez, vous savez, j'ai appelé le président.
Il me semble que c'était de trop.
et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette décoration-là ?
C'est très important. C'est une reconnaissance du petit garçon que j'étais. Le petit garçon qui était pupille de la nation, donc qui était adopté par la nation, et qui, après la mort de mon père, qui petit à petit a grandi, s'est débrouillé, aidé par sa mère, aux côtés de mes sœurs, etc. Et bon, c'est une récompense que j'ai accepté bien volontiers et qui m'honore moi personnellement, mais surtout qui honore mon père et ma famille.
Et vous l'avez reçu des mains d'un président de la République,
c'est très compliqué. Non, je l'ai reçu des mains de mon professeur d'histoire, qui était devenu maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin.
Jean-Claude Gaudin, absolument, effectivement, qui était le maire de Marseille. Allez, on termine ces infos médias, Jean-Pierre, avec le chiffre du jour, et c'est le 8.
Oui, c'est le nombre d'anciens participants de Mariés au premier regard qui ont accepté de participer à un Que sont-ils devenus sur M6. On les a vus dans les saisons 5, 6 et 7, et tous reviendront sur leur expérience malheureuse ou heureuse, bien sûr, dans l'émission. Alors, il s'agit, pour ceux qui connaissent le programme, de Laure et Mathieu, qui vont bientôt accueillir un deuxième enfant. Il y aura aussi Pauline et Damien, parents aussi, et Cécile et Alicia.
Oui, on est très heureux, Jean-Pierre, avec Pauline. Vous regardez cette émission, Mario ?
Bien sûr, je regarde tout. Ouais. Est-ce que je mens ou pas ? J'en sais rien.
Ah oui, c'est ça. Rude. Vous regardez absolument tout. Mais est-ce que vous auriez pu vous marier au premier regard ? Vous, célibataire,
pas.
Non, jamais ?
Certainement pas.
Ah ouais,
certainement
ça ne fait pas partie de...
Il faut au moins attendre 2-3 regards.
Ah oui, c'est votre deuxième
premier regard. Quel est votre secret de longévité ? Parce que je crois que vous êtes en couple depuis pas mal d'années maintenant.
Il y a 40 ans, je crois que...
Avec Evelyne.
Avec Evelyne, avec la même personne. Écoutez, on s'entend bien, on s'engueule pas. Elle respecte le travail que je fais. Je respecte la vie qu'elle mène. Elle aime bien ma fille, j'aime bien la sienne, donc tout va bien.
Ouais, vous êtes une famille recomposée. Je crois que la rencontre, en plus, est originale et romantique.
Dans un avion. Elle était hôtesse. Ah. Et moi, j'étais passager. Ouais. D'ailleurs, l'hôtesse, on parle beaucoup d'elle en ce moment sur Canal+. Car dans le documentaire GIGN, épisode 2, elle raconte comment elle a été détournée, qu'il y a eu un mort dans cette caravane en 1977. Elle a été la première personne qui a été menacée par le pirate de l'air et sauvée par le GIGN et Christian Proto.
Donc à l'époque, elle vous a proposé une petite collation et vous êtes tombé sous le charme.
Exactement. Elle m'a proposé une tranche du cake de sa maman.
Ah, c'est pas vrai.
Et j'ai accepté bien volontiers et je remercie encore sa maman car le cake était excellent.
C'est ça. Vous disiez que vous l'aviez encore sur le ventre avant l'interview, mais c'est pas grave, je ne dirai pas la vérité. Mais vous ennuyez à Carry-le-Rouet, en fait. Vous aviez absolument envie de revenir à Paris. C'est vrai que j'ai regardé la météo en ce moment, c'est assez nuageux là-bas.
C'est pas que j'avais envie, on me pose la question.
Ah oui.
Donc à moi de dire oui ou de dire non.
Oui.
J'ai trouvé que c'était rigolo. On m'aurait dit, il faut faire une émission tous les jours, j'aurais dit non.
Ah oui.
De façon catégorique, nette et catégorique. Et on m'a demandé de faire 5 jours. Oui. Donc venir 5 jours à Paris, c'est pas la mer à boire. Oui. La mer est devant chez moi.
Et vous la buvez pas.
Là, c'est la Seine, je vous conseille pas de la boire. Donc, ni vous y baigner pour l'instant.
On va s'y neiger bientôt.
Donc je suis très content. Puis de retrouver cette grande maison qui est Europe 1, dont je souhaite le plus ardemment la renaissance.
Bon, et puis apparemment, c'est pas pour le salaire qui vous a motivé. C'est ce que vous avez dit à Pascal Pro ce matin. Vous avez dit que vous êtes le joker le moins payé de la télé.
Ah bon ? Bon, je dois être fatigué. quand je dis ça. Non, mais on fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour le kiff, pour le plaisir, pour savoir si... C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas.
Oui, c'est
pour
vrai.
Ça, le plaisir de recevoir des invités. Puis tous les invités acceptent bien volontiers de venir. Jusqu'à Inès Reg qui est venue.
C'est un événement,
et qui a dit, tiens, avec Jean-Pierre Foucault, il est bienveillant, mais bon, vous avez entendu ce que je lui ai dit.
Voilà. Oui, qu'est-ce que vous allez lui demander d'ailleurs à Inès Reg ? On rappelle qu'Inès Reg vit une guerre totale avec Natacha Saint-Pierre dans les coulisses de Danse avec les Stars, c'est vraiment l'affaire qui a passionné la France.
Pardonnez-moi, nous sommes jeudi aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Je lui ai posé la question, il a fallu écouter, mon vieux.
Ah oui, mais vous savez, moi c'est compliqué. Attendez, j'ai un travail, monsieur, il faut que je prépare des interviews. Alors c'est vrai que la radio a rythmé votre vie professionnelle pendant de très nombreuses années, des décennies, mais malgré tout, qu'est-ce que vous avez ressenti lors du premier bonjour que vous avez prononcé lundi ?
Écoutez, le plaisir et le bonheur de retrouver l'exercice de mon métier, car c'est mon métier. La radio, c'est le direct, c'est mon métier. J'en ai fait, comme vous l'avez dit courtoisement, pendant quelques décennies, j'en ai fait 5 décennies. J'ai fait en réalité 55 ans de radio 55. Et 5 jours. Ouais. 55 et 5, ça va, c'est pas la mer à voir. Mais j'étais très heureux de retrouver cette ambiance, de retrouver un peu, non pas le tract, mais le boost du direct. C'est bien sympa et d'avoir une équipe formidable.
Et quel bilan vous avez tiré des deux premières émissions ?
Écoutez, plutôt
sympa.
Quand vous
êtes sorti du studio.
Il faut poser la question à l'équipe qui dit toujours que c'est formidable. Mais en fait, moi je pense que je m'y suis trouvé assez bien. Il faut dire que quand les chaussures sont bien préparées, c'est agréable d'y poser les pieds.
Ah, c'est bien dit. Alors en tout cas, le point négatif, c'est peut-être le réveil qui sonne, parce que vous devez vous lever très tôt,
je suis matinal, moi.
Ah oui ?
Je suis matinal, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de souci à arriver à 7h, ce qui est le cas à Europe 1 tous les matins. Ouais. Je suis très matinal. Par contre, comme tout bon méditerranéen qui se respecte, je fais une petite sieste l'après-midi.
Ah, c'est vrai. Oui. Donc ça veut dire que ça ne perturbe pas vraiment votre quotidien de retraité actif ?
Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a que la vue qui change.
Ah oui ? Ah oui, c'est sûr que vous n'avez pas la vue sur la mer.
Exactement.
Ça, c'est le problème.
Vous vous levez à quelle heure ?
5h30, 6h moins le quart.
Ah oui.
Ah ouais, non mais attendez, vous ne levez pas à 5h30, 6h moins le quart le reste de l'année quand même, si ?
Non, si, je me réveille très tôt.
Ah oui,
je me réveille très tôt. Et Anissa, qui travaille avec moi, elle arrive à 3h30 du matin.
Ouais. Au milieu de la nuit. Hein.
Ouais, ouais.
Et est-ce que Thomas, il vous a envoyé un petit message ?
Bien sûr. Il m'a remercié de pouvoir enfin être en vacances pendant 5 jours. Et je l'ai rassuré en disant que je partais bien demain.
Alors c'est vrai que vous avez précisé dès les premières paroles que vous avez prononcées sur Europe 1 que de toute façon ce ne serait que 5 émissions.
Bien sûr.
Est-ce que vous n'êtes pas déjà triste à l'idée de raccrocher les gants vendredi ? Est-ce que vous ne dites pas franchement j'aurais bien fait une semaine de plus ?
Non, franchement non.
C'est pas une drogue pour vous en fait ? On a l'impression que ce métier-là...
Non, sinon je serais malheureux.
Oui. Hein.
Donc là c'était un cadeau qu'on m'a offert pendant 5 jours que je prends bien volontiers. Et les cadeaux, il ne faut pas que ce soit éternel.
Oui.
Pas un jour de plus ni de moins, si on vous redemande l'été prochain, par exemple, pour les...
J'en sais rien, pour l'instant, on ne m'a pas posé la question.
D'accord.
Donc, mais l'été, j'aime plutôt être chez moi.
Ah oui, donc il faudra négocier.
Il ne fait pas souvent beau dans le sud de la France, donc il faut bien y aller quand c'est l'été.
Évidemment. Bah,
oui, forcément. Alors c'est vrai que vous êtes un animateur associé à TF1, c'est sur cette chaîne que vous présentez le tirage de la Française des Jeux, l'élection Miss France une fois par an, en décembre. Est-ce que vous avez été obligé de demander l'autorisation à vos dirigeants à TF1 pour pouvoir faire cette petite incursion
Alors ça c'est très rigolo parce que ça part d'un tweet d'un monsieur qui se dit bien informé et qui est au courant de rien. C'est absolument magnifique. J'ai pas de souci avec TF1. TF1 avec qui j'entretiens des relations extrêmement courtoises. Je vous donne un exemple. Quand France 3 m'a demandé de faire un meurtre sur la Côte Bleue, j'ai demandé à TF1, c'est sur France 3, ils m'ont dit avec plus grand plaisir, on attend le moment où on va pouvoir te regarder. Donc moi j'ai des relations très très courtoises.
Après ils vous ont dit avec plus grand plaisir, on attend le moment où on doit vous entendre, c'est ça ?
Non, moi j'ai pas posé la question.
Vous n'avez pas spécialement posé la question ?
Non, pourquoi ?
Parce que généralement...
Parce que ma vie, c'est pas de la télévision.
Ah oui.
Je fais de la radio, c'est mon métier. Quand j'étais à TF1, dans les années 90, j'ai été nommé directeur général de RMC. Personne n'y a vu ombrage, donc non, c'est... Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien entre TF1
et moi. En fait, vous n'êtes pas pieds et poings liés avec TF1, c'est ça qu'il faut dire.
Si, je suis pieds et poings liés, affectivement.
Affectivement, bien
avec
sûr,
TF1,
mais contractuellement, c'est pas le cas.
Puisque je suis le premier à avoir été engagé par TF1 en 1987, et quelques jours après, je suis toujours là, et heureux d'y être. Donc, en confiance.
Et vous savez comment ils ont réagi, la direction ? Ils vous ont envoyé un petit message
Il fallait vraiment réagir ? Non, c'est vraiment un événement capital.
Ah oui, c'est un événement. Le retour de Jean-Pierre Foucault à la radio, on vous confirme, c'est un événement.
J'ai beaucoup parlé de TF1, j'ai reçu cette semaine Benoît Arcade, qui a été l'un des grands vainqueurs.
Oui. Les
12 coups de midi. J'ai parlé de Jean-Luc Reichmann. On parle beaucoup de TF1. On a parlé de Danse avec les Stars. Oui. Il reste, c'était là hier ou avant-hier. donc tout va bien.
Vous aviez Agustín Galiana qui a participé aussi à Danse avec les Stars. Dans les feuilletons de TF1 aussi. Ouais. Effectivement. Alors vous avez confié...
Donc au grand désespoir de vous chagriner, tout va bien.
Ben, c'est dommage, on s'attendait à une autre réponse. Vous voyez, on se disait, il va nous dire qu'il y a une guerre, mais non, pas du tout, il n'y a pas de guerre. Bon, très bien. Vous avez confié au Journal du Dimanche ce week-end que vous avez reçu de la part d'une personne d'ailleurs dont vous taisez l'identité un message
parce
assez violent.
C'est un appel anonyme.
Ah, c'est un appel. Ah,
c'est un appel anonyme, oui.
Ah ouais. Alors l'appel dit la chose suivante. Allez sur la radio des fachos d'extrême droite à la sauce CNews et Bolloré. Quelle déchéance. Comment vous avez réagi à la lecture de...
D'abord, j'ai mal réagi. Ouais. Parce que moi, je fais de la radio, je fais du divertissement, et je ne me pose pas la question de savoir chez qui je vais, pourquoi j'y vais, etc. Europe 1, pour moi, c'est une marque extrêmement forte, une marque de cœur. Et bon, bah, écoutez, maintenant, ce qui m'a déplu, c'est l'anonymat.
Ah oui.
Moi, j'aime bien qu'on me dise des choses en face et qu'on se dévoile. Donc, comme la personne ne s'est pas dévoilée, je n'ai que faire des propos qu'elle a tenus.
Mais vous attendiez à ce que votre arrivée sur Europe 1 génère ce type de critique ?
Bah non, ce type, une critique.
C'en est une. Il n'y en a pas eu d'autres ?
Oui, non. Si, de temps en temps, sur les réseaux sociaux. Mais vous savez...
C'est pas représentatif et c'est anonyme.
Pipo 27 et Travolo 12, je m'en fiche.
Alors moi, je suis Pipo 27 et Sarah, c'est Travolo 12.
Le jour où une personne me dira en face ce qu'il pense, j'aurai grand plaisir à lui répondre.
Sinon, on dit beaucoup de bien en face de vous, mais par contre, sur les réseaux sociaux, on y va, hein, vous inquiétez pas.
Et alors, lors de votre première émission, lundi, vous avez interrogé Cyril Hanouna, avec qui vous avez travaillé pendant 5 années sur RTL. Dans La Bonne Touche, on s'en souvient, c'était un duo mythique de la radio. Qu'est-ce qui vous a motivé à le recevoir
pour la première ? Parce qu'il parle peu, sauf dans ses émissions, bien entendu, mais il se confie peu, etc. Et j'ai pensé que être le premier... J'écoutais, le premier, c'est Cyril, et le dernier, demain, ce sera Michel Drucker. Donc la boucle est bouclée.
Ah ben là,
je pense qu'il a accepté, bien entendu. Pour toi, mon JP, je viendrai.
C'est vous qui avez fait toute la programmation, en
non,
fait,
j'ai
si je comprends
bien. Non, je n'ai pas fait toute la programmation. Enfin, j'ai donné un petit coup de main à l'équipe d'Europe 1 qui a bien programmé pour Cyril Hanouna qui est venu hier matin. C'était vraiment très, très sympa. Et puis, le comédien qui était à ses côtés, c'est
Francis Perrin,
un grand ami à moi. Et j'aime beaucoup Francis et sa famille. Donc tout va bien. Je me sens un peu chez moi.
Il nous a confié qu'il allait vous rendre visite de temps en temps à Carrie Leroy aussi.
Oui, c'est exact.
Vous avez dit d'autres choses, mais on ne le dira pas. Alors, vous n'avez jamais rompu le lien que vous entretenez depuis des années avec Cyril Hanouna ?
Mais non.
Jamais.
Non, on se voit moins, bien entendu. On s'est vu au quotidien pendant 5 jours. Mais on se parle, on s'envoie des petits textos. On a une amitié fidèle. Réciproque entre l'un et l'autre, et ça me fait très plaisir. Je suis content de son succès. Je ne pourrais pas vivre comme lui, c'est-à-dire que lui, il vit dans le conflit en permanence à cause des attaques qu'il génère, certes. Je ne pourrais pas, moi, être comme ça. Je lui ai posé la question, d'ailleurs, hier. Ça le dope, ça le rend performant, et tant mieux, parce qu'il est performant, et son émission marche très bien.
Vous vous appelez souvent, d'ailleurs
Non, on se parle par texto. De temps en temps, on s'appelle.
Il m'a appelé il
y a 3 jours pour ma seconde émission en disant ouais super continue etc. Donc voilà, on s'apprécie. Et évidemment ça va faire réagir immédiatement sur les réseaux sociaux en disant comment vous appréciez ce tordu etc. Eh bien oui, je l'apprécie.
Et vous l'assumez en
et
plus.
Et je l'assume et c'est mon ami.
Absolument. Alors c'est vrai que vous dites que vous n'aimez pas vivre dans le conflit. Il vous est arrivé parfois de vivre des moments de conflit dans votre carrière. On sait que ça peut arriver dans tous les métiers bien évidemment, mais dans le monde de la télévision qui est un monde quand même qui génère beaucoup de tensions.
Très peu, peu parce que moi je ne vis pas au milieu des conflits. Moi dans mon métier je fais mon émission et je rentre chez moi. Donc c'est pas ce qui reste etc, ce qui génère des conflits, ce qui cherche la bagarre comme on dit, ça ne fait pas partie de mon caractère. Donc j'ai pas eu de conflits, pas eu trop de difficultés. Je dois dire que j'ai eu la chance d'être bien servi à la radio et à la télé par des concepts formidables et ça s'est toujours très très bien passé.
Vous pensez quoi d'ailleurs de ces conflits ? Il y en a malgré tout dans les médias, entre les groupes audiovisuels. Vous en avez été là, la victime collatérale dans votre message anonyme. Entre le groupe Bolloré qui est très critiqué, les groupes en général.
Par les politiques quand vous regardez.
Par 3 élus et 17 personnes sur les réseaux sociaux. Peu m'importe.
Vous ne rentrez pas là-dedans.
Je ne rentre pas dans ce. dans ces conflits.
Mais c'est vrai que vous êtes un animateur qui quand même a un recul comme rarement on en reçoit ici sur ce plateau. On a le sentiment, c'est vrai, que la guerre des chaînes est plus intense que jamais. Est-ce qu'elle a atteint aujourd'hui un paroxysme ou ça a toujours été le cas? Quand vous avez commencé votre carrière dans les années 60, ouais, est-ce qu'il y avait déjà cette espèce de guerre entre les chaînes, entre les...
Il n'y avait qu'une maison et trois chaînes.
Oui, de toute façon, il y avait, oui.
Il n'y avait qu'une maison et trois chaînes.
De fait, à l'époque, il n'y avait pas de guerre, puisque c'était Perfit qui était le ministre, il n'y avait pas de problème.
La concurrence s'est installée avec la démultiplication des chaînes, mais ça, c'est la concurrence de marché.
Oui.
Ça me paraît assez normal, on essaie toujours d'être meilleur. Mmh. Moi, quand j'étais à TF1, il y avait des émissions de variété, toutes les 48 heures, il y avait Drucker le lundi, moi le mercredi, le vendredi Sabatier, le samedi Sébastien. On se battait entre nous pour avoir les meilleurs invités, c'est normal. Mmh. Mais cette émulation me semble assez saine. Mmh.
Et vous avez regardé d'ailleurs les commissions d'enquête parlementaires, oui, avec les différents dirigeants, à la fois de TF1 d'un côté, Canal+ de l'autre. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ben, je vais dire ce que j'ai dit à Touche pas mon poste autre jour, je trouve que c'était assez pitoyable. Mmh. À part le président de la commission qui s'est bien tenu, le rapporteur a posé des questions à charge. Mmh. Il n'écoutait pas les réponses, puisque pendant les réponses, il pianotait son téléphone. Donc j'aurais souhaité au moins le béaba de la bonne éducation.
Absolument. Et c'est effectivement la question qu'on avait posée à l'époque à Quentin Bataillon, qui avait fait preuve de beaucoup de retenue vis-à-vis de son rapporteur, avec lequel il n'entretient pas forcément de bonnes relations. On l'a compris. Allez, il est temps pour nous d'aborder la dernière rubrique de cette émission, au suivant. Ce vendredi, nous allons recevoir sur ce plateau à votre place Ophélie Meunier. Ophélie Meunier, connue pour animer Zone Interdite tous les 15 jours sur M6, mais également son talk show qu'elle a lancé le week-end sur cette même chaîne. Est-ce que vous avez déjà croisé sa route à Ophélie Meunier?
Bien sûr, j'ai croisé sa route avec son mari. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était dans un avion où elle partait avec armes, bagages, enfants et mari pour Marrakech, pour aller passer quelques vacances. Elle est aussi RTN, hein, donc vous n'avez
c'est
pas
vrai.
Cité RTN.
Oui, c'est vrai, elle a beaucoup d'activités.
Elle a beaucoup, beaucoup d'activités. Lorsqu'elle a été interrogée à Europe 1, savoir ce qu'elle pensait de mon retour furtif de 5 jours, elle a dit qu'elle était très heureuse de m'entendre. Et moi, je suis très heureuse de la suivre, de la regarder et de l'apprécier, parce que c'est une grande professionnelle du monde de l'audiovisuel. Et je l'apprécie tout autant que son mari.
Oui, son mari qui travaille sur TF1, il faut le préciser.
Non, pas sur TF1.
Enfin, pour des émissions,
pour des émissions qui
sont diffusées, et notamment TF1. Alors, Ophélie Meunier a commencé sa carrière sur Canal+, en tant que Miss Météo. Et puis vous, Jean-Pierre Foucault, d'autres Miss. Les Miss France, c'est en fin d'année sur TF1. Vous présentez chaque année l'élection. Vous avez fêté votre 30e année.
Je vais fêter ma 30e Miss cette année, au mois de décembre.
Non, c'est cette année.
C'est cette année.
Donc vous y serez aux commandes. Inutile de vous poser la question.
Mais écoutez, il y a 15
ans. La question qui revient.
Il y a 15 ans, vos confrères disent que c'est ma dernière. dites-moi ce qui vous ferait plaisir d'entendre. Je vous
On a envie que vous restiez. Si toutefois vous décidez de raccrocher les gants, ce serait bien que vous le disiez ici.
Bien entendu.
Vous en serez gré. Mais non, il est prévu. C'est signé, en fait, généralement. Comment ça se passe?
On signe pas. Vous savez, on travaille en bonne intelligence.
Oui, tout simplement. Hein,
que ce soit avec TF1, donc, que vous évoquiez tout à l'heure, ou la société Miss France, on travaille en très bonne intelligence. On n'a pas besoin de coucher notre nom au bas d'un parchemin.
Vous avez régulièrement déclaré que si c'était Miss Provence, à ce moment-là, peut-être que vous penseriez
à passer. Pourquoi pas?
Bon, pour l'instant, c'est pas Miss Provence.
Ça a failli l'an dernier.
Ah, ouais. Oui, exactement. Sauf que c'est Eve Gilles qui a été élue.
L'an dernier, les gens s'en disent, ça y est, il va partir.
Et non, vous resterez là pour l'année prochaine encore. Alors, c'est vrai qu'Ophélie Meunier, pour revenir à cette animatrice, elle fait partie de la nouvelle génération d'animatrices qui ont fleuri sur le petit écran au cours des dernières années. Pour vous, quel est votre héritier aujourd'hui à la télévision? Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas vraiment parti, puisque vous êtes encore dans les médias, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'héritier de Jean-Pierre Foucault?
Mais pendant un temps, je disais Julien Courbet, mais qui maintenant commence à prendre de la bouteille. Moi, je dis que Cyril Ferraud est absolument formidable.
Cyril Ferraud.
Il est absolument formidable parce qu'il a un talent, une niaque, une culture générale importante, la façon de faire. Il ne faut pas qu'il en fasse trop, parce qu'on en voit beaucoup, beaucoup. Il faut que France Télévisions fasse attention à ne pas l'user, en quelque sorte. Mais incontestablement, c'est un grand talent d'aujourd'hui et de demain.
Et puis alors, on nous dit dans l'oreillette que qui veut gagner des millions va revenir pour les 25 ans, pour fêter son 25e anniversaire déjà. Est-ce que vous en serez, cher Jean-Pierre?
Je serai candidat.
Ah.
Je serai Arthur qui va présenter l'émission, puisque c'est la société d'Arthur qui a repris le flambeau de qui veut gagner des millions.
Ce ne sera pas Camille Combal.
Je ne programme pas, moi on m'a invité. Ouais. Moi je serai avec Jean-Luc Lemoine en duo.
Ah, génial.
Nous serons candidats tous les deux. et nous allons jouer pour l'association Ruban Rose pour les femmes qui souffrent du cancer du sein, et nous sommes très très heureux, et ça va être un grand barnum, et j'espère que l'émission va fonctionner.
Vous ne vous quittez plus avec Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne qui est également dans Culture Média sur Europe 1. Vous allez reformer ce petit duo. Quel conseil vous donneriez à Arthur dans le cadre de cette émission ?
Aucun.
Aucun ?
Oh, bah, c'est Arthur. Bah,
c'est quand même vous le taulier sur cette émission, pardon. Vous l'avez animé quand même pendant des années.
Non, mais
est-ce qu'il y a un ton à adopter quand on dit « est-ce que c'est votre dernier ?»
Non, mais il sait très bien. Il sait très bien, il connaît parfaitement son métier, et je n'aurais pas l'outrecuidance de lui donner des conseils.
Vous êtes bien trop élégant, cher Jean-Pierre Foucault. Allez, on va terminer cette émission avec la question que vous souhaitez poser à Ophélie Meunier. Elle sera à votre place donc ce vendredi à l'occasion de son talk show.
Ophélie, bonjour. Merci pour les mots gentils que tu as eu un encontre. Ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que tu ne regrettes pas de trop travailler et que tu ne regrettes pas d'être pas suffisamment auprès de ta famille et de tes enfants. Voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. À bientôt en tout cas.
Et c'est quelqu'un qui est en vacances toute l'année qui pose cette question, absolument. Merci beaucoup Jean-Pierre Foucault, et je rappelle que là vous n'êtes pas en vacances. Allez, merci beaucoup Jean-Pierre Foucault, merci Sarah, et le Buzz TV revient avec Ophélie Meunier.
Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre.
Vous faites les mariages aussi ?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.